Amen. La parole de Dieu est claire, elle est précise, et que celui qui l'a reçue puisse vraiment la saisir. On a besoin d'entendre la voix de Dieu. On a besoin d'entendre ce que Dieu a besoin de nous dire pour encourager, pour consoler, pour exhorter lorsqu'on a des choses à changer dans nos vies, mais on a besoin de la parole de Dieu. On va ouvrir ensemble la Bible dans le texte d'Ésaïe au chapitre 9 et au verset 1er. On ne lira qu'un seul verset. C'est un des versets les plus forts de la Bible. Ésaïe 9, verset 1er. On le lit ensemble. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. On peut le relire ensemble ? Le peuple qui vivait dans les ténèbres, dans le noir, dans l'obscurité, verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. On va fermer nos yeux ensemble, on va demander à Dieu sa visitation dans sa parole ce matin. Saint-Esprit, tu es celui qui veut nous parler en ce moment et nous voulons maintenant faire taire tout autre bruit qui voudrait brouiller le message que tu as pour nous ce matin. Que le Saint-Esprit puisse percer à l'intérieur de nos cœurs, de nos consciences pour nous donner cette parole qui vient de Dieu. Même à titre personnel, j'ai besoin d'être rempli de toi et je voudrais vraiment que tu grandisses, que je diminue pour que tu puisses vraiment te faire toute la place et que le roi de gloire puisse faire son entrée dans ce lieu. Au nom de Jésus, amen. Amen. Le peuple qui vivait dans les ténèbres, dans le mal, l'obscurité, verra briller une grande lumière. Ce matin, je voudrais vous parler de pourquoi Dieu. C'est une question que je me suis posée récemment. C'est en fait, il y a quelques jours, j'étais sur Internet et j'ai commis l'imprudence de regarder quelque chose d'affreux, parce que ça m'a bouleversé, ça m'a travaillé pendant des jours et des jours. J'ai vu ce qui s'était passé à Nankin. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le massacre de Nankin. Ça fait partie de ces moments de barbarie, mais inimaginable de l'espèce humaine. Et quand le texte nous parle de ténèbres à Nankin, c'était l'ancienne capitale de la Chine. D'ailleurs, les Chinois, maintenant, l'ont transféré à Pékin. Le tribunal pour crimes de guerre qui a été ouvert juste après la guerre à Nankin a recensé 300 000 morts en quelques jours. Le tribunal de Tokyo, puisque c'était pendant l'occupation japonaise qu'il a rejugé dans les années 90, a estimé au moins à 200 000 morts avec un nombre incalculable d'atrocités commises par une armée japonaise en furie après des exactions des deux côtés. Ce fut des massacres sur des civils, sur les femmes, évidemment, sur les enfants, comme on en a rarement connu dans l'espèce humaine. Et dans cette ville de Nankin, il y avait un pasteur, John McGee, qui a filmé avec vous savez, en 16 mm, ces petites caméras, qui a essayé de filmer parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre. Quelques exactions entre les... Bon, il y a des enfants dans la salle, vous imaginez le pire du pire, quand les hommes sont possédés. Et il a pu filmer la personne qui travaillait avec lui à l'orphelinat, des jeunes filles qui n'ont pas pu être protégées, s'est suicidée 2 ans après la guerre, tellement elle était la responsable de l'orphelinat, n'a pas supporté de vivre après ça. Et il y avait un Allemand, pourtant un membre du parti nazi, John Rabi, qui a transmis à Hitler ces informations en disant « il se passe des atrocités ». À Nankin, même un nazi était choqué. Je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi Dieu ? Pourquoi tant d'horreur en Asie ? Est-ce que vous croyez qu'on est meilleur en Europe ? Vous regardez ce qui s'est passé. Quand on regarde ces quelques films qui nous parlent de la Shoah, qu'on se dit, mais c'est pas possible, Seigneur, que il y avait des hommes et des femmes qui avaient des consciences là-dedans. Les personnes qui ouvraient et qui fermaient la porte des chambres à gaz, il y avait des papas. Ils avaient des enfants, ces gens-là. Ils avaient des filles du même âge. Ils avaient une épouse. Ils allaient peut-être même à la messe le dimanche. Ils allaient à l'église luthérienne le chanter les louanges de Dieu après ça. Mais Dieu, pourquoi ? Pourquoi l'homme est comme cela ? Alors en Europe, mais en Afrique, mes bien-aimés, quand on voit ce qui s'est passé, ce qui se passe en RDC, les exactions qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, sans parler du Rwanda. Moi, j'avais un ami qui c'est marqué au fer rouge. Quand c'est vos propres voisins qui, à la machette, massacrent votre famille, vous dites mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et vous voyez, le texte dit, pour le peuple qui vivait dans de grandes ténèbres, dans ce monde du mal, on est, et je voudrais vraiment que vous réalisiez combien, parce qu'on est aseptisé aujourd'hui, on se plaint de quelques bobos, mais le monde, il y a des aspects dans le monde où on se plaint parce qu'il y a un peu de la crise économique, mais mes amis, on réalise plus la souffrance réelle, les choses qui se passent dans ce monde. Même, je me suis dit, mais peut-être là où il y a plus de chrétiens, peut-être là où les gens ont une meilleure éducation, en tout cas, où les gens ont eu plus de morale. Et vous savez, j'ai réfléchi, mais quand est-ce que les gens avaient peut-être le plus de morale ? Un des peuples qui avait vraiment cette instruction, c'était notamment aux États-Unis, et c'était particulièrement vrai au 19e siècle. Les enfants et les petits étaient élevés au respect, au droit, à la justice. Ils avaient tellement souffert, les fameux le Pilgrim Fathers, quand ils étaient partis d'Europe, qu'ils avaient voulu faire un monde meilleur. On s'est dit, est-ce qu'on va réussir un monde meilleur ? Et quand vous regardez des documentaires sur la guerre de sécession, vous dites, mais c'est pas vrai ! Que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, dans le monde entier, les hommes sont abjectes dans la souffrance. Ils sont capables de faire des choses épouvantables. Alors, en voyant tout ça, je me dis, mais quand même, le monde est mauvais, les autres sont mauvais. Les Japonais sont mauvais. Les Allemands sont mauvais. Les Rwandais sont mauvais. Les Américains sont mauvais. Je voudrais te dire que c'est l'être humain qui est mauvais. Et l'être humain, c'est toi, c'est moi. Parce qu'un jour, dans un jardin, on était dans la présence de Dieu. Dieu avait créé des choses de façon tellement belle que l'Esprit de Dieu planait, se bougeait, se mouvait dans le jardin, un jardin des délices. Un jardin extraordinaire dans lequel il avait placé un homme, une femme. Et il leur avait dit, vivez, profitez de la vie. Il y a une seule chose que je ne vous demande pas, ne prenez pas. Ne prenez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si vous prenez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, votre conscience sera réveillé et ce jour-là, vous aurez la possibilité de faire le mal. Moi, pendant des années, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets que les hommes soient aussi horribles ? Mais parce qu'on a choisi, mes amis. On l'a choisi. Et là, je vais arrêter de zoomer sur les autres pour zoomer sur toi, sur moi. Moi, je me suis rendu compte que je vais descendre dans mon raisonnement, essayer de me suivre. Mais je me dis que vous avez regardé peut-être ces procès, le procès de Nuremberg, le procès de Nankin, le procès des crimes du Rwanda, le procès de ce qu'ils essayent de faire comme procès aussi en Côte d'Ivoire. Ils vont toujours essayer. On ne pourra jamais remplacer les personnes qui ont été violées, qui ont été meurtries, qui ont été tuées, tabassées. On ne pourra jamais remplacer. Mais on essaye de faire un travail pour essayer de comprendre. Et on se demande, parce que, en fait, quand vous arrivez au procès, vous n'avez plus une machine de guerre. Vous n'avez plus l'institution. C'est ça qui est incroyable. Vous avez des personnes. Vous avez des pères, des mères. Vous savez qu'il y avait des infirmières dans ces camps de la mort. Vous avez des personnes qui, parmi les choses les épouvantables à Nankin, les Japonais avaient inventé un système de recherche médicale pour faire des expérimentations sur les cobayes humains, comme Mengele dans les camps nazis. Et il y avait des infirmières qui étaient là-dedans, des femmes qui avaient dit « je m'engagerai pour sauver les gens ». Et je me dis, mais quand elles ont été jugées, ces personnes-là, vous voyez, elles vont dire, mais j'avais peur, c'était les ordres. Et celui du dessus va dire, j'avais peur, c'était les ordres. Et celui du dessus va dire, j'avais peur, c'était les ordres. Et puis quand on arrive en haut, on arrive à Hitler, il est mort. En fait, chacun d'entre vous fait partie de cette chaîne. Chacun d'entre nous fait partie de cette chaîne où on participe au monde des ténèbres. Et je peux vous dire que chacun d'entre vous, tous les jours de votre vie, vous faites le choix de prolonger ces ténèbres ou pas. Moi, je voudrais vous parler de quelque chose que j'ai fait de mal cette semaine. Et ce n'est pas grave. Et si vous trouvez que ce n'est pas grave, c'est grave. Et moi, j'étais en train de conduire, j'étais en retard parce que vous savez, quand il y a la pluie en région parisienne, il y a beaucoup plus de bouchons. Donc vous essayez de prendre des raccourcis et vous accélérez alors que normalement, il faudrait plutôt ralentir. Donc j'étais pressé, j'avais peur d'arriver en retard, je devais surveiller un bac blanc dans mon lycée. Et j'avais un camion. J'ai essayé de prendre un petit raccourci, une petite route de campagne, vous voyez. Et il y avait un camion qui avait décidé de me faire arriver en retard. Et vous savez, le gros camion avec la benne, rempli de sable, avec les trucs qui tombent du camion. Déjà, vous êtes énervé parce qu'il n'avance pas et en plus, il arrose votre voiture. Et je dis, c'est pas vrai. Et le camion, il était à 40 km/h dans les descentes, à 20 dans les montées. Et puisque, en fait, je ne sais pas, mais on allait de rond-point en rond-point, mais des petits ronds-points, on ne peut pas doubler. Et après, des lignes blanches, rond-point, ligne blanche, rond-point, ligne blanche. Exaspéré au bout de plusieurs minutes, j'ai vu la ligne blanche, j'ai regardé en face et j'ai doublé le camion. Et alors que je doublais, pour gagner mes 2 minutes, je me suis dit quelque chose. Et s'il y avait une famille qui est arrivée en face à ce moment-là, une femme avec ses petits, et que j'avais provoqué un accident. Et que, à ma grande tristesse, cette femme eût perdu un de ses enfants, ou elle-même ait été blessée à vie. J'aurais dit quoi? J'aurais dit, c'est de la faute du camion? J'aurais dit, c'était qu'une ligne blanche? Vous voyez, le mal, c'est un cumul de toutes petites, mauvaises décisions où tu écrases ta conscience en disant « je sais, mais ce n'est pas très grave ». Et vous savez, quand vous retournez tous ces crimes et ces choses horribles, c'est à la base fait de petites décisions qui n'étaient pas très graves. Mais cumuler une chaîne de commandements dans un système autoritaire, ça donne une horreur à la fin. Alors vous, vous êtes un peu moins coupable parce que vous ne faites pas partie d'une chaîne de commandements derrière vous, mais vous êtes tout à fait aussi coupable. Et je me suis dit, moi en tant que pasteur, j'aurais pu me retrouver un jour dans un procès où j'aurais eu que mes larmes pour pleurer, où j'aurais jamais pu me racheter. Et devant Dieu, et je dis, et alors Dieu m'a protégé, il ne s'est rien passé, je n'ai même pas vu une voiture ni rien. Vous voyez, je me fais des films. Mais je préfère me dire. Mais je me suis vraiment repenti. J'étais après et j'ai dit, Seigneur, tu me pardonnes parce que je dois être un modèle dans mes actions, mes décisions. Et je prie, et vous savez, la chance, c'est que le Saint-Esprit ne me laisse pas tranquille quand je fais mal. Me laisse pas tranquille quand je fais mal. Est-ce que le Saint-Esprit te laisse tranquille quand tu fais mal? C'est mauvais signe. Vous savez, je crois que on ne se rend pas compte combien sur cette terre, nos actions sont libres et combien derrière est aussi le diable qui s'amuse avec vous, avec moi, comme des pantins. Et vraiment, il essaye d'influencer. Mais nous sommes responsables. Je crois que quand vous allez dans ces camps de la mort, il y a des démons. C'est rempli de démons. Mais il y a bien des êtres humains qui acceptent d'agir comme des démons. Quand vous allez dans certaines collines et quand vous allez dans certains endroits, je pense à cette radio des 1000 collines au Rwanda qui a diffusé ce message de mort entre familles. Je me dis, dans cet endroit-là, les démons devaient danser jour et nuit. Et il y a des hommes et des femmes qui ont accepté cette situation. Et c'est peut-être vous, c'est peut-être moi, c'est nos frères, nos sœurs. Alors on essaye, je voudrais terminer cette partie négative sur on essaye de s'en sortir. Alors je vais vous dire, il y a des choses qui corrigent les erreurs de l'être humain. Moi je suis professeur, je crois que l'éducation permet de calmer beaucoup de choses. Je crois que la démocratie est meilleure que la dictature. Je crois que quelqu'un qui est élevé, qui est éduqué, à qui on apprend une certaine morale, respectera certaines choses. Je crois en l'école. Je crois en l'école. Je crois dans certaines vertus de la politique, d'une politique qui serait droite. Je crois dans certains principes comme la justice. Et j'espère que les juges, et je prie pour eux en France et dans les autres pays, fassent leur travail. Mais rien ne remplacera que le fait que vous avez besoin d'une lumière dans la nuit. Et moi, quand je relis ce texte, on reprend le début, juste ce texte, seul verset. Ésaïe 9, verset 1er. Le peuple vivait dans les ténèbres, verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Je vais un petit peu plus loin, verset 5. Regardez, c'est Ésaïe qui écrit ça. Ça a 3000 ans, ce texte. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller Dieu fort, père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté, il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté, regardez ce mot-là, sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Dans son ardent amour. Moi, je retiens qu'il y a un règne. Il n'y a pas que le règne du mal. Il y a possibilité, et ça, c'est un choix de tous les jours. Il est venu, Jésus est venu sur la terre pour dire, vous avez la possibilité de changer de royaume. Vous avez la possibilité de passer du royaume des ténèbres, du royaume de l'obscurité, de là où vous vous mettez à la place de Dieu, de ce royaume que vous avez choisi en Éden, où il a été, où, avant de prendre le fruit défendu, on savait, si tu le fais, tu auras ça. Tu peux changer de royaume et passer au royaume du Fils de Dieu, un royaume de justice et un royaume d'amour. Regardez, on passe dans le Nouveau Testament. On passe dans le Nouveau Testament. Oh, je ne peux pas m'empêcher, on approche de Noël et je voudrais juste lire dans Luc, chapitre 2, verset 6. Si c'est possible pour ceux qui sont à la vidéo de le montrer sur vos écrans, à vous qui êtes en train d'écouter ce message, de tourner la page avec moi. Luc 2, verset 6. Or, durant son séjour, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Verset 8. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura et dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une très grande joie. » Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez, vous trouverez un nouveau-né dans des langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut à côté de l'ange, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, aux hommes de bonne volonté, aux hommes que Dieu aime. Est-ce que tu es prêt à accepter le roi qui vient ? Il est venu, mais est-ce que tu l'acceptes tous les jours ? C'est un choix de tous les jours. Et Jésus, il est venu dans une mangeoire, vous imaginez ? Je ne sais pas si vous imaginez une mangeoire. Moi, je suis né un petit peu à la campagne, mais vraiment, il y avait une ferme à côté de chez moi. Il y avait même une porcherie à côté de chez moi. J'ai vu ce que c'était une mangeoire. C'est horrible, une mangeoire. Hein. Pour ceux qui connaissent, vous êtes né à Paris, vous ne connaissez pas. Voilà, vous êtes né à Aubervilliers. Il n'y a pas forcément de mangeoire à Aubervilliers, hein. ni à Créteil. Hein. Et c'est une odeur. Vous avez le fumier mélangé avec la paille. Ils avaient dû essayer de faire un petit peu de nettoyage. C'est difficile dans une étable. Hein. Jésus est venu comme ça. Il a dit, la situation la plus cata des hommes, je suis prêt à la vivre. Un roi qui s'abaisse, un roi qui s'incline. Voici votre roi. Un roi qui vient tout petit, 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 dans l'endroit le plus petit. Quelques temps plus tard, on tourne les pages dans Luc. Regardez ce qu'il vous dit, votre roi, dans Luc 6. On passe de Luc 2 à Luc 6. Vous savez, le problème du règne du mal qu'on a vu dans une première partie, c'est que qui est au centre ? C'est toi, c'est moi. Qui c'est qui est Dieu dans le règne du mal ? C'est toi. D'ailleurs, le serpent a dit, vous serez comme des dieux. Le règne du mal, c'est quoi ? C'est quand je choisis, moi, je vous ai donné l'exemple de la ligne blanche, avec des conséquences terribles, mais c'est vrai pour tous les péchés. Vous prenez le fait de, pourquoi vous voulez prendre la femme de votre voisin ? Ça s'appelle commettre un adultère. Vous allez détruire, vous allez amener la mort de cette relation. D'accord ? Lorsque tu as de quoi manger, et tu vas aller voler cette chose-là dont tu n'as pas vraiment besoin, si ce n'est que ta pulsion. Tu vas détruire la confiance que la personne avait placée en toi. Lorsque tu vas mentir à la personne que tu aimes, tu sais que tu vas lui mentir. Tu vas le justifier en disant « Oui, mais tu vas casser cette confiance. Tu vas faire mourir la relation de sécurité qu'il y avait dans votre dialogue. » Lorsque tu vas t'énerver, lorsque tu vas monter sur tes grands chevaux, comme tu dis, tu vas élever le ton. Tu vas monter en puissance. Et que ces quelques phrases vont sortir. Tu vas casser quelque chose chez l'autre. À chaque insulte que tu vas sortir, tu vas casser quelque chose. Et à chaque insulte, sans le savoir, tu fais partie du royaume du mal. À chaque moment, c'est qu'à ce moment-là, celui que tu mets sur le trône, c'est le mauvais. C'est, tu sais, c'est qui ? C'est toi. C'est tu dis, je veux revendiquer mes droits, moi. Parce que tu m'as énervé, tu m'as provoqué, tu n'as pas assuré. Et moi, j'en ai souffert, donc moi, je te le dis. C'est ton Dieu, c'est toi. Alors peut-être tu as mille raisons, la personne est peut-être en faute, mais tu t'es placé sur le trône dans ton royaume. Et à ce moment-là, Dieu dit, c'est plus mon royaume celui-là. Parce que mon royaume sera un royaume de paix, mon royaume sera un royaume de justice, mon royaume sera un royaume d'amour. Alors ce royaume extraordinaire, regardez qu'est-ce qu'il nous dit dans Matthieu 6, verset 27. « Quant à vous tous qui m'écoutez, c'est Jésus qui parle, hein, c'est pas moi. Hein. Sinon ça sert à rien, hein, j'ai pas grand-chose à vous dire. Mais il a quelque chose à vous dire, parce que c'est votre roi. Enfin, c'est le roi qui fait partie du royaume de Dieu. Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, verset 27. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Ça fait beaucoup, Seigneur, quand même. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, non pas mon manteau, Seigneur, il fait froid, c'est l'hiver. Ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à ceux qui te demandent, et si quelqu'un prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites pour les autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Vous avez vu la grande différence de royaume ? C'est plus vous qui êtes sur le trône, là, je suis désolé. Mais si vous voulez faire partie du royaume du Fils, la place qui est sur le trône, elle n'est pas pour vous, mes amis. Et à partir de ce moment-là, quand vous quittez la place du trône de votre cœur, vous brisez la chaîne du mal. Parce qu'à partir de ce moment-là, Satan n'a plus la possibilité de régner sur cette terre. Les ténèbres n'ont plus la possibilité de régner. Le fusible que vous étiez est cassé. Et vous êtes passé dans un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Le royaume du Dieu, c'est très étonnant. C'est Jésus sur le trône. Parce que, vous voyez, à un moment, j'aurais pu dire, est-ce que ce n'est pas les autres qu'on met sur le trône, finalement ? Parce que mon ennemi, je le bénis alors qu'il est horrible. Donc c'est presque comme si je lui laissais ma place. Pas tout à fait. En fait, c'est tu te prosternes devant Dieu et tu fais tellement confiance à Dieu que tu n'as plus à craindre l'ennemi. En fait, comme tu as tellement confiance que Jésus est ta justice, peu importe ce que l'autre dit sur ta vie. Tu as tellement confiance que Dieu est ton consolateur que peu importe s'il te gifle. Tu as tellement confiance que Dieu rétablira ta justice que même s'il te calomnie, tu restes en paix. Tu as tellement confiance dans celui qui est le roi dans ton cœur que peu importe si tu as froid parce qu'à l'intérieur, il y a la chaleur de Dieu qui boue. C'est ça le royaume de Dieu. C'est un royaume extraordinaire. C'est un royaume extraordinaire. Mais qui demande de se dépouiller de tout pour que lui grandisse et moi je diminue. Et l'autre, mon prochain, le Rwandais, le Japonais, l'Américain, l'Allemand, eh bien, je le bénis. Ma voisine, acariâtre, ma chef, méchante, ma fille qui m'a mal parlé hier soir, eh bien, je ne les vois plus pareil. Je les vois avec les regards du nouveau royaume. Parce qu'il y a, pour le peuple qui vivait dans les ténèbres, une excellente lumière qui vient sur la terre. Faites-la briller. J'arrive à la fin de ce message. Je voudrais vous dire que le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre. Le Saint-Esprit est vraiment, vraiment à l'œuvre. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean. Il prie le Père. Et vous savez ce qu'il fait ? Il dit, Père, je vais devoir partir. Je vais aller près de toi. Mais je ne veux pas les laisser seuls. Parce que question de justice, ils vont avoir du mal à assurer. Il y a besoin que quelqu'un les aide et les convainque de péché, de justice et de jugement. Pour que quelqu'un fasse le travail dans leur conscience, parce que chaque matin, quand ils vont avoir la possibilité de doubler un camion avec une ligne blanche, ils seront tentés de passer la ligne blanche. Alors j'ai besoin que tu leur envoies quelqu'un. Un consolateur, un défenseur, mais aussi quelqu'un qui va leur dire « ne fais pas ça ». Quand tu as la caisse de Carrefour, que tu as envie de doubler ou que tu as envie de mal parler, ne fais pas ça. Il y a besoin qu'il y ait un assistant permanent. Je leur enverrai une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous serez des mini-Jésus partout où vous serez. Et c'est pour ça que c'est... Vous voyez, je termine, j'ai dit un règne d'amour. C'est extraordinaire ce qu'on a vu. Vous savez qu'il est allé jusqu'à la croix quand même, celui qui vous a dit « bénissez ceux qui vous persécutent ». Et que sur la croix, alors qu'il est en train de gémir toutes les souffrances, il dit « Père, pardonne-leur, parce que je ne voudrais pas qu'ils supportent la condamnation qu'ils méritent pour cela. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tu n'as pas beaucoup d'excuses pour ton mauvais caractère. Tu n'as pas beaucoup d'excuses pour tes mauvais réflexes. Je n'ai pas beaucoup d'excuses pour ma ligne blanche. Et pour tous les autres que j'ai, dont je n'ai pas, ma conscience a été rapide pour les oublier. Seigneur, je veux que tu règnes dans ma vie. Un règne de justice. Vous savez qu'on devait être condamné. Hein ? Vous savez, tout à l'heure, on avait lu ce texte qui disait « Il établira un royaume de justice éternelle ». Vous allez me dire, mais il n'y a pas la justice sur la terre, pasteur, c'est une arnaque. Pourquoi il est venu, il n'y a pas de justice? Si, il y a une justice. Vous savez que son règne de justice, c'est pour toi et c'est pour moi. C'est pour ses enfants. Parce que la justice, c'est que personne d'entre nous va au ciel, normalement. Hein. Et l'incroyable justice de Dieu, c'est qu'à partir du moment où Jésus a donné sa vie à la croix, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Ils arrivent devant Dieu. Nous, on est en train de voir ces petites justices humaines, ce petit tribunal de quartier là. Mais Dieu lui parle du tribunal de Christ, du tribunal du plus grand des tribunaux. Celui devant qui tout homme, toute femme, toute langue, toute nation, toute tribu, toute race devra un jour passer. Et là, il est déjà établi ce royaume de justice. Et ce royaume de justice, depuis que Jésus est venu, mes amis, on peut y aller. On peut arriver devant Dieu en disant, oh, Seigneur, je ne veux pas que tu ouvres le dossier. Il dit, si, si, il n'y a pas de problème pour le dossier. Comment ça, Seigneur, il n'y a pas de dossier? L'avocat a bien travaillé. Tout a été payé. Tout a été payé. Toutes tes erreurs sont payées. Royaume de justice, parce que maintenant le Saint-Esprit t'aide à corriger ce que tu dois corriger. Conclusion ce matin. Je suis rendu compte que plus vous voyez Jésus comme un bébé, comme un enfant, plus effectivement il est petit dans votre vie. Plus c'est le Jésus de Noël qui est dans une crèche et qui fait 1,2 cm, plus il est petit dans votre vie. C'est un roi qui vient. C'est un roi tout petit qui vient. Et j'aimerais tellement qu'il soit sur le trône de ta vie. J'aimerais tellement que tu passes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et c'est un choix de tous les jours. Il ne faut pas dire, Seigneur, un jour j'ai pris mon baptême. C'est vrai que tu as changé de royaume, mais comporte-moi, comporte-toi, que je me comporte moi comme le prince de mon royaume. On va fermer les yeux ensemble. Je vais demander à toute l'équipe de venir nous conduire dans la louange pendant que les frères se préparent pour la Sainte Cène. On ferme les yeux, s'il vous plaît. J'espère que ta conscience te travaille assez ce matin pour te pousser à demander pardon. Oh Jésus, fermez les yeux et c'est le moment le plus important de la réunion, le moment où on a le plus besoin d'être concentré, c'est ce moment de l'appel où vous passez de spectateur à décisionnaire dans votre vie. Oh Seigneur. Pendant que les yeux sont fermés, ce que j'avais envie de vous lire, c'est le Notre Père. Alors que les yeux sont fermés, je voudrais vous demander de pouvoir dire et vivre cette prière extraordinaire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. On va garder les yeux fermés. Que ceux qui peuvent me dire, peuvent certifier, parce que vous l'avez d'ailleurs démontré par votre engagement dans les eaux du baptême, parce que vous avez choisi, adulte, de prendre votre baptême. Et qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans ce même royaume où vous avez quelque part laissé la place sur le trône à Jésus. Dans ce cas-là, vous allez vous lever avec moi et on va prendre le pain et le vin de la Sainte Cène. Levez-vous avec moi et on va garder les yeux fermés. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Je vais demander à ceux qui restent assis aussi de rester en prière. Dieu veut vous parler, Dieu vous aime aussi. Dieu veut vous faire du bien ce matin. Et je vais vous donner la possibilité de faire monter vers Dieu une louange incroyable qui s'appelle Majesté. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi comme une perle de grand prix. Alléluia.
Me voici.
Alléluia, Jésus. Alléluia.